Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Pays des Raux et RPH Sud et c'est l'heure de votre émission astronomique, l'Astromag, présentée aujourd'hui par Serge, bonjour Serge.
Bonjour.
Et par Eric, votre serviteur, de l'Observatoire Astronomique d'Aniane. Alors aujourd'hui, c'est la dernière émission de la saison, on va parler de choses astronomiques et on va commencer, Serge, tu vas nous parler un petit peu de deux sondes qui ont été envoyées maintenant il y a quand même quelques années, les sondes voyageurs. Et après, moi je vous emmènerai un petit peu dans le ciel, notamment le ciel de fin de printemps et de début d'été, pour aller parler d'une constellation que, ma foi, on ne connaît pas trop. Et je vais vous inviter à sortir un petit peu de votre routine et puis d'aller voir la constellation particulière du serpent. Mais donc on va commencer déjà par s'éloigner un petit peu de la Terre et du Soleil en parlant des sondes voyageurs.
Effectivement. C'était il y a 48 ans déjà. Rappelez-vous la réplique de Toy Story, vers l'univers et au-delà. Eh bien, cette réplique s'applique vraiment à nos deux sondes, Voyager 1 et Voyager 2, qui ont été lancées il y a maintenant 48 ans, en 1977, pendant l'été. On a fait partir d'abord en Voyager 2, au mois d'août, et puis au mois de septembre, Voyager 1. Alors, elles ont fait du chemin depuis le temps. Elles ont voyagé. L'objectif principal, c'était d'étudier les planètes du système solaire. Malheureusement, avec la technologie disponible à l'époque, c'était assez simpliste. Mais elles ont quand même permis de découvrir quand même certaines particularités de Jupiter, de Saturne, de Uranus et de Neptune. Par exemple, on a découvert l'atmosphère de ces planètes. Et puis, elles ont voyagé aussi autour des satellites de ces grosses planètes, principalement autour de Io. Parce que de loin, on voyait des panaches qui s'élevaient aux alentours. Et on s'est aperçu que, on a envoyé donc Voyager 1, qui a pris des photos, de nombreuses photos de ces panaches, des panaches de soufre et de dioxyde de soufre, et qui s'élèvent sur plusieurs centaines de kilomètres. Et en plus, en retombant, elles s'étalent sur à peu près 500 kilomètres. Donc ça a permis d'étudier l'atmosphère de ces planètes et de ces satellites. Et grâce à leur antenne de 10 mètres de diamètre, elles nous ont fait parvenir avec un temps plus ou moins long. Aujourd'hui, il faut quand même 2 jours pour recevoir quelques informations que nous envoie Voyager 1. Mais on reçoit quand même encore quelque chose. Alors, comment se déplace-t-elle? Elle se déplace par effet gravitationnel, communément appelé une fronde gravitationnelle. C'est-à-dire que quand vous voyez les images de nos fusées qui s'envolent, elles ne vont pas directement d'un point A qui est la Terre vers leur objectif. Elles prennent de la vitesse en faisant le tour. Elles se servent du champ que produit la Terre. Et donc, elles sont éjectées. Ça permet de gagner quand même pas mal de carburant. Et ce phénomène les accélère et les éjecte jusqu'à sa prochaine destination. Et c'est comme ça qu'elles ont tourné, observées, et puis elles ont rentré dans le champ magnétique, dans le champ gravitationnel des planètes pour s'éjecter vers la suivante, et ainsi de suite. Et donc elles n'avaient pas besoin d'utiliser leur moteur, puisqu'elles se servaient de ce champ gravitationnel des planètes. Donc aujourd'hui, par contre, elles sont sorties du champ de ces planètes, et elles sont alimentées par des petits générateurs au plutonium 238 qui, de temps en temps, les propulsent. Et elles se déplacent toutes les deux aux alentours de 61 000 km/h, ce qui fait à peu près 1,5 million de kilomètres par jour. Donc ça fait quand même des bonnes distances.
Oui, ça fait déjà une belle distance. Et je rappelle que on ne peut pas aller aussi vite sur Terre.
Non.
Ce n'est pas autorisé, non.
Et en plus, il n'y a pas de panneau. Pas de panneau, pas d'intersection. Ouais.
Et là, maintenant, elle se situe à peu près à quel niveau?
Alors, Alors elles sont sorties de ce qu'on appelle l'héliopause et l'héliosphère. Ce sont des endroits où ce sont les limites du rayonnement solaire. Et maintenant, donc, elles sont sorties, elles vont vers ce qu'on appelle le nuage d'Oort, qui est toujours dans le système solaire, parce qu'elles ne sont pas sorties du système solaire. Le nuage d'Oort, il est quand même à 7500 milliards de kilomètres de la Terre. Donc il faudra quand même encore pas mal de temps. Une fois qu'elles auront atteint le nuage d'Oort, il faudra encore à peu près 300 ans pour traverser ce nuage d'Oort. Et donc après, on pourra dire qu'elles sont sorties du système solaire. En attendant, eh bien, elles sont toujours voisines. Et donc ben, ces deux sondes, ce sont des objets créés par l'homme, eh bien, qui sont aujourd'hui le plus loin. Voyager 1 est équipé d'une plaque avec quelques inscriptions dessus. Et donc, bah, si un jour elles sont capturées ou elles se posent ou elles sont attrapées par une civilisation, eh bien, ils sauront d'où elles viennent. Alors, on a cru les avoir perdues à un moment, dans les années 2020-2021, on recevait plus de signal. Je vous l'ai dit, il faut quand même 2 jours pour envoyer les signaux. Et on n'avait plus rien. Et en 2023, à force de lui envoyer des petites informations, eh bien, il y en a une qui a répondu. Voyageur 1, elle a dit, bah, coucou, c'est moi, c'est Voyageur. Je suis là, je suis toujours active, je suis toujours là, et je reprends le contact avec la Terre. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'elle s'éloigne de plus en plus. Elle est de plus en plus vieille. Elle fonctionne de moins en moins. Comme je vous ai dit au départ, la technologie embarquée, elle était de l'époque. Donc les émetteurs-récepteurs avec les bandes émettrices ne sont plus aussi fiables qu'aujourd'hui. Donc on estime que...
Oui, elles ont déjà largement rempli leur mission.
Oui, parce qu'en plus, elles étaient parties pour 5 à 7 ans. Elles devaient aller au plus loin sur Pluton. Et puis, autant les laisser partir, hein, puisqu'elles étaient encore opérationnelles. Et donc, aujourd'hui, on reçoit quelques signaux. Donc, elles n'émettront plus rien. Elles n'émettront que de temps en temps un bip-bip, hein, un peu comme le premier satellite, hein. Voilà, qui a dit, je suis autour de la Terre. Elles diront, on est encore actifs, on est encore vivants.
Voilà, et d'ailleurs, je crois que si j'ai lu un petit article, la NASA a réussi à réactiver un moteur, c'est sur Voyager 2, je crois, il y a quelques jours. Pour leur pousser encore un petit peu plus loin. Donc, ce qui prouve quand même que la technologie la fin des années 40 était quand même pas si mauvaise que ça, parce qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir si on va pouvoir retourner sur la Lune. Et vu les déboires des fusées américaines, on peut se poser la question, alors qu'on a des objets qui datent de 1948 et qui, eux, fonctionnent toujours à l'autre bout du système solaire. Donc, c'est bien.
Ah oui.
On a un bel exemple également avec Hubble qui, au bout de 35 ans, alors qu'il était destiné à une vie dépassant pas 15 à 20 ans, aujourd'hui ça fait 35 ans, et il travaille toujours, il nous envoie toujours de superbes images, et il fait beaucoup de science pour l'univers.
Ah oui. Je vous renvoie sur les sites qu'on peut trouver sur James Webb, c'est la France qui a envoyé James Webb, et... Ils l'ont envoyé au-delà de leur espérance. Hein. C'était parti pour envoyer un certain nombre de kilomètres. Et Ariane l'a envoyé beaucoup, beaucoup plus loin. Et donc, ça lui a fait énormément gagner de carburant. Et donc, au lieu de vivre une dizaine d'années, elle pourra vivre en 15, 20 ans. Et c'est pareil donc, pour ces deux sondes. Eh bien, aujourd'hui, elles sont à 25 milliards de kilomètres, ce qui est quand même pas mal. Une 25 et une 23 pour Voyageur 2. Donc, elles vont continuer leur petit bonhomme de chemin. Et donc, ce qu'on peut leur souhaiter, hein, c'est un bon voyage et bon vent. Alors, bien sûr, le bon vent solaire, s'il en reste encore un petit peu pour elles.
Là, on va même pouvoir parler bientôt de vent cosmique. Et bon voyage.
Et oui, voilà. Deux sondes. C'est tout ce qu'on peut faire pour elles maintenant.
Voilà, d'accord. Eh bien, voilà donc pour Voyageur 1, Voyageur 2. Vous êtes toujours sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. et vous écoutez votre émission Astromag, qui est aujourd'hui présentée par Serge et Eric de l'Observatoire astronomique d'Anian. Et on vient de faire un petit tour assez loin dans le système solaire, aux confins du système solaire, avec les sondes Voyager 1 et Voyager 2. Et pour la deuxième partie de cette émission, on va sortir un petit peu des sentiers battus, on va parler un petit peu d'observation. L'été arrive, les soirées vont être agréables, et c'est le moment aussi de sortir vos instruments ou de participer à des soirées organisées, par exemple à l'Observatoire d'Anian. Et je vais vous parler d'une constellation qui, on n'a pas forcément l'habitude de la voir et de l'observer. C'est la constellation du Serpent. Alors le Serpent, c'est une constellation de l'hémisphère nord. Alors elle ne date pas d'aujourd'hui, hein, puisqu'elle a été répertoriée dans les 48 constellations par Ptolémée au IIe siècle. Et aujourd'hui, elle fait partie des 88 constellations modernes, dont les frontières ont été définies en 1930. Alors, elle a une petite particularité, cette constellation, parce que c'est la seule constellation qui, en fait, est divisée en deux. Qui porte le même nom, mais qui est divisée en deux, parce que au milieu se trouve une autre constellation, la constellation d'Ophicus. Et Ophicus, c'est le porteur de serpents. Et on a deux parties, la tête du serpent et la queue du serpent. Donc voilà. Alors, il faut savoir aussi sur le serpent qu'il y a une étoile très brillante, hein, Alpha Serpentis, selon la dénomination un peu officielle et latine, qu'on appelle plus communément Unukalai. Et elle se trouve dans la tête du serpent, elle a une magnitude de 2,6, c'est-à-dire que c'est une étoile que l'on peut observer à l'œil nu sans problème, hein, même avec un ciel particulièrement, comment dire, limité par la pollution lumineuse et autres, en ville et autres, on peut la voir. Et elle abrite des objets intéressants dont on va parler, certains que l'on va pouvoir observer avec nos instruments d'amateurs, notamment... le fameux amas globulaire Messier 5 qui est visible à l'œil nu hein, dans des bonnes conditions, mais également un autre objet du catalogue de Messier hein, qui est l'objet M16 qui est un amas ouvert et qui est associé à une nébuleuse connue sous le nom de nébuleuse de l'Aigle dont je vous parlerai et qui est particulièrement elle connue et reconnue dans le monde entier par les photos qui ont été publiées grâce au télescope Hubble. On y reviendra un petit peu. Elle a aussi en son sein des objets extragalactiques, c'est-à-dire qui sont hors de notre galaxie de la Voie lactée. Alors celle-là, malheureusement, pour les amateurs, il va falloir essayer d'imaginer ou aller sur Internet ou sur des sites spécialisés pour voir des photos, parce que ce sont des objets qui sont d'une magnitude très faible, et donc on ne peut pas les observer avec nos instruments, mais par contre qui sont assez remarquables, comme le Sextuor de Céphère, qui est un amas de galaxies le plus dense que l'on connaisse actuellement, ou alors la galaxie infrarouge ultra-lumineuse ARP 220, ou un autre objet encore très particulier qui est connu dans le monde de l'astronomie, c'est l'objet de Hogg. C'est la plus célèbre de la classe des très très rares galaxies appelées galaxies annulaires, c'est-à-dire que c'est une galaxie qui forme un anneau quasi parfait. Mais celle-là, encore une fois, on les cite, mais malheureusement on ne pourra pas les observer avec nos instruments d'amateurs. Alors, j'ai parlé de la nébuleuse de l'Aigle, mais avant de parler de ces objets, on va faire un petit tour dans l'histoire quand même, parce qu'il faut savoir d'où ça vient, hein, pourquoi il y a cette constellation. Et le serpent, dans la mythologie grecque, il représente un serpent qui est tenu par le guérisseur Asclépios. Alors Asclépios, ça fait penser à un nom que tout le monde connaît, hein, c'est Esculape. C'est le même, c'est simplement la traduction romaine du grec. Hein. Et... Asclépios est représenté dans le ciel par la constellation d'Ophicus, donc le porteur de serpents. Et la mythologie, l'histoire nous dit que Asclépios, il tua un jour un serpent, mais cet animal fut ressuscité par un autre serpent qui lui déposa une herbe de renaissance juste avant sa mort. Et comme les serpents muent chaque année, Dans la tradition grecque, hein, dans la société grecque, ils étaient considérés comme le symbole de la Renaissance avec la mue. Et la légende raconte que Asclépios ressuscitait les morts en utilisant la même technique dont il avait été témoin de la part du serpent. Alors, bien sûr, c'est une légende qui explique pourquoi Ophicius, donc la constellation Ophicius se trouve en plein milieu du serpent, et on a de chaque côté d'Ophicius une partie de la constellation du serpent. Alors, comme je le disais tout à l'heure, cette constellation est la seule des 88 constellations modernes à être coupée en deux. Et on trouve autour de la tête du serpent les constellations de la Balance, de la Vierge, du Bouvier, la couronne boréale ou Ophicius. On peut également, elle est voisine également de Hercule, du côté est. La queue, elle est bordée par le Sagittaire, l'écu de Sobieski et l'aigle à l'est, ainsi que Ophicius, bien sûr, au nord et à l'ouest. Elle se classe au niveau de la grandeur parmi au 23e rang des 88 constellations, donc c'est quand même déjà pas mal. Et petite chose remarquable, donc Alpha Serpentis, donc Unukalai, est une géante rouge qui se trouve à peu près à 75 années-lumière du Soleil et qui a une magnitude de 2,6. Il n'y a pas de souci pour la voir. Alors, il faut savoir qu'elle a un petit compagnon. Le problème, c'est que le petit compagnon, il est tellement faible en luminosité et tellement proche de cette étoile qu'on ne peut pas le discerner. Donc, c'est une étoile double. Et près d'Alpha se trouve Lambda Serpentis, une étoile de magnitude 4,4. Donc, on peut l'observer aussi dans d'un bon ciel, qui est semblable au Soleil. Elle se trouve seulement à 38 années-lumière. Et chose particulière, une petite exoplanète gravite autour d'elle. Voilà, donc, mais ça, bien sûr, avec nos instruments, un peu difficile à voir. Alors, pour finir avec le serpent, on va parler des objets assez remarquables que l'on peut, pour le coup, observer avec nos instruments d'amateurs. Le premier qui vient, hein, bien sûr, dans la tête, c'est l'objet Messier 5. C'est un amas globulaire qui est visible à l'œil nu dans de bonnes conditions de ciel. Hein, alors, un petit peu compliqué à voir, mais on peut le discerner. Et c'est un objet qui a été initialement découvert par William Herschel en 1791. Il est visible aux jumelles. Alors, il donne un beau spectacle, hein, aux jumelles. C'est très, très beau à voir. Et alors, si vous voulez véritablement profiter de sa splendeur et résoudre ses étoiles, il vous faudra quand même un instrument d'au moins 200 mm. Donc ça, c'est visible et vous pouvez le voir. Savoir que Messier 5 contient un grand nombre d'étoiles variables et on a pu déterminer la vitesse à laquelle il s'éloigne de nous, à peu près 50 km par seconde. Je sais pas, énorme en vitesse, mais quand même, ça commence à faire. Voilà, alors il y a d'autres objets, hein, des objets du nouveau catalogue, du NGC 5962, qui est une galaxie spirale. Là, il faut un instrument un petit peu plus grand, un peu plus puissant pour le voir, hein, puisque sa magnitude est de 11. De même que 5921, qui est une galaxie spirale également, dont la magnitude avoisine les 12, voire 13. Ce qui est intéressant, surtout, c'est d'aller voir M16. Alors M16 se situe dans la queue du serpent, c'est-à-dire de l'autre côté d'Ophicius. Et M16 est un très jeune et très bel amas ouvert. Il vaut vraiment le coup d'œil. Il est d'une magnitude 6, c'est-à-dire, limite pour l'œil, hein, puisque vous savez que la limite de l'œil, c'est 6,5. Donc il faut un très très beau ciel et il vaut mieux prendre une bonne paire de jumelles pour aller le voir, ou un instrument, même de taille très modeste. Hein, on peut admirer ce bel amas ouvert. Et il a la particularité de baigner dans une région à forte concentration de gaz, qui s'appelle une nébuleuse. Et cette nébuleuse, elle est connue sous le nom IC4703, pour ceux qui ont un appareil GoTo, donc vous pouvez aller la chercher. Par contre, pour la voir, elle, il vous faudra un instrument d'au moins 300 mm de diamètre pour en discerner les contours, avec un filtre soit oxygène 3, soit UHC, pour révéler les gaz. Et c'est avec ce diamètre-là que vous pourrez voir également le point intéressant de cette nébuleuse, c'est-à-dire les fameux piliers de la création qui ont été révélés par Hubble, hein, et qui ont fait le tour du monde. C'est une des premières une des premières photos rendues très célèbre par Hubble sur les objets du ciel profond. Et on se souvient tous de ces images assez fantastiques, de ces trois colonnes de gaz qui, au fur et à mesure, vont bientôt disparaître. Mais bon, on a encore un peu le temps pour les observer parce que, avant que ça disparaisse. Voilà, donc c'est ça. Alors, un petit peu au nord de Messier 16, on peut trouver un autre amas ouvert. Il s'appelle NGC 6604. Il est un petit peu plus diffus, hein, moins brillant, mais il vaut le coup quand même d'aller voir pour sortir un petit peu du catalogue Messier. Et enfin, pour terminer cette évocation de la constellation du Serpent, je vous l'ai dit, entre la queue et la tête, il y a une constellation Ophicus. On peut également observer des amas globulaires assez célèbres comme M10, M12 et M14 qui sont observables aux jumelles et également au télescope. Voilà pour ce qu'il y avait à dire un petit peu sur le Serpent. Alors, il y a plein d'autres objets, hein, mais ce n'est pas la peine d'en parler, puisque avec nos instruments d'amateurs, on ne peut pas les voir. Là, je vous renvoie sur les différents atlas. Et par contre, vous savez qu'on arrive à l'été, et donc on va pouvoir faire de belles observations. Les soirées vont être agréables. Et vous pouvez aller voir sur le site de la parenthèse étoilée d'Alain Jupin les éphémérides ainsi que des émissions spéciales sur les ciels de l'été. Donc voilà un petit peu pour les éphémérides qu'on ne pourra pas détailler cette fois-ci. Et bah, après, moi je vous donne rendez-vous donc, après les vacances d'été. Et entre-temps, si vous le souhaitez faire de belles observations, vous savez qu'à partir du 12 juillet, l'Observatoire d'Anian reçoit pour des soirées publiques tous les soirs et vous permet d'aller faire un petit tour dans notre galaxie et hors de notre galaxie, voir un petit peu ce qui se passe. C'était votre émission sur l'astronomie, Astromag, présentée par Eric et Serge de l'Observatoire astronomique d'Anian. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt et un bel été.